France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse Weekend. Une émission particulière ce matin, à l'occasion du départ à la retraite de notre chargée de programme Nathalie Romero, j'ai choisi de célébrer son chanteur préféré, Renaud, né en 1952, qui a si bien raconté nos vies sous toutes ses formes, avec un leitmotiv, son enfance, cette enfance qui ne l'a jamais quitté, un terreau fertile qui construira et qui conditionnera ses combats et sa sensibilité. Pourquoi ces chansons nous touchent-elles autant? Pourquoi ont-elles si bien raconter les choses minuscules de nos vies et les grandes tragédies de nos existences? Et puis nous reviendrons sur quelques chansons qui nous ont tous accompagnés à un moment ou à un autre de notre vie. Avec nous ce matin, le journaliste Erwan Lelewet et le directeur musical des antennes de Radio France, Didier Varro. Je les imagine en jean, perfecto et bandana, guitare à la main pour entonner Les Béton, l'hymne de leur génération, Thibaut de Saint-Maurice et Guillemette Odissino, bonjour. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre punchline philo, l'une des phrases les plus célèbres de l'histoire de la pensée?
Eh bien, il me semble que ça n'aurait pas déplu à notre ami Renaud, voilà, s'il avait pu rencontrer Albert Camus, donc. C'est sa fameuse citation « Je me révolte, donc nous sommes ».
Bonjour Guillemette, chef de rubrique cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de cinéthérapie?
Alors, comme pour moi, Renaud a été quelqu'un contre lequel je me suis blottie, évidemment en pensée, j'ai envie de parler en fait de où est-ce qu'on habite et le logis et comment on guérit de ne pas en avoir de logis.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien vous fasse Weekend, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Lola, je veux pas que tu restes ici, t'as compris?
Quoi?
Parce qu'il y a la télévision.
Mais moi, j'ai envie de rester.
Bon, eh ben... Quelle autorité, ce mec. Je m'en fous, je vais le dire avant, ça, tu vois, ça va gueuler.
Lola, je suis qu'un fantôme. Quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis
Bon, ben j'ai déjà des frissons en écoutant cette chanson. Renaud, on t'a dans la peau. On vient d'écouter un extrait de ce documentaire de Didier Varro et Nicolas Maupier. Bonjour Erwan Lelewet.
Bonjour Ali.
Vous publiez un sublime livre avec sa fille Lolita, ses chants. Renaud, le livre publié aux éditions de La Martinière. Bonjour Didier Varro.
Bonjour Ali.
Directeur musical des antennes de Radio France. Vous venez de publier aux éditions Le Robert, la chanson française un peu beaucoup passionnément. J'y ai pas trouvé Renaud.
Ah, il y est.
Tout le long. Oui, tout le long, oui, c'est vrai.
Et oui, parce c'est que vrai, c'est vrai. C'est une histoire de la chanson dans sa globalité. Donc Renaud apparaît comme un des personnages principaux de cette histoire, mais il n'y a pas de chapitre.
Il
n'y
a pas
consacré.
De chapitre, c'est ce que je voulais dire.
Oui, j'ai beaucoup donné. Hein,
vous avez donné et vous lui avez consacré un documentaire, Renaud en plein cœur. Justement, pourquoi Renaud ne cesse de nous toucher au cœur depuis un demi-siècle, Erwan Lelewet?
Je pense parce qu'il raconte toute la palette des sentiments humains, en fait. Vous l'avez dit, ce sont un peu les choses de la vie qui sont réunies chez lui. Il y a la colère, il y a l'engagement, il y a aussi l'amour qui est à raconter vraiment toutes les coutures.
L'amitié.
C'est l'amitié aussi, bien sûr, les copains. Mais l'amour, j'insiste là-dessus parce que c'est l'amour pour une femme, pour une muse, pour Dominique, cette femme irremplaçable. Et puis l'amour d'un père pour sa fille. On a tous en tête les chansons, il y a à peu près 20 chansons dans lesquels il raconte Lolita. Ça dit bien quand même l'importance de ce paradis perdu de l'enfance et de la transmission d'un père à sa fille. Je crois qu'il n'y a pas un chanteur plus fort là-dessus, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime fort.
Didier Varro.
Moi, je l'aime parce que il m'a toujours fait du bien. C'est le titre de votre émission. Vraiment, Renaud, grand bien me fasse dès lors qu'il est apparu. J'ai eu l'impression d'avoir un grand frère, un tuteur, quelqu'un qui m'éclairait le monde, quelqu'un qui me faisait participer à sa vie quotidienne, qui me rendait plus intelligent. Vous avez démarré l'émission avec un extrait d'un de mes documentaires, puis après cette chanson, et vous avez dit, j'ai déjà le frisson. Et pendant qu'on écoutait l'extrait du documentaire, on se marrait tous. Et ben c'est ça, Renaud. C'est le rire et les larmes qui se confondent de façon permanente. Et c'est ça, la vie. C'est la vie dans toute son entièreté, dans toute sa complexité, parfois dans toute sa tragédie aussi. Et c'est pour ça qu'on est si attaché à cette figure emblématique qui nous traverse depuis des décennies maintenant.
Comment vous l'avez découvert ?
Avec son premier album, en fait, en 1975, chez un disquaire. Et ça a été une claque monumentale. J'ai été assez attiré par la pochette du disque « Amoureux de Paname ». Oui. Et quelques jours après, je suis devant la télévision. C'est une certaine Danielle Gilbert qui officie.
Midi première,
absolument. Et elle présente donc ce jeune Gavroche qui va chanter à l'heure du déjeuner dans la France de Giscard, qui a du mal à passer à la couleur, Camarade bourgeois. Et là, c'est une sidération totale. J'ai l'impression que je fais mon petit mai 68 autour du repas du déjeuner avec mon père qui est un amoureux de Brassens, qui est un peu mal à l'aise, mais qui sent intuitivement une filiation avec Brassens. Et puis ma mère, plutôt de droite, qui elle, se dit quand même ce garçon, mais elle dit il est beau gosse hein, quand même. Et finalement, voilà, il y a tout. Il est déjà rentré dans la famille à ce moment-là.
Petite parenthèse, vous parlez de beau gosse. Moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, Erwan Lewet, c'est la beauté de Renaud.
Ah oui.
Il y a des photos absolument sublimes de Renaud.
L'angélisme. Il y a quelque chose de très angélique dans les premières années.
Oui, c'est à la fois ange et après un peu ange déchu, donc ouais, c'est très très beau.
Peut-être, hein. Et puis quelques démons un peu aussi quand même, il y en a eu plus tard.
Mais comment l'avez-vous découvert, Renaud ?
Moi, c'est un peu plus tard, vraiment la période années 80, quand il est peut-être la période plus tendre, moins révolté, moins énervé, moins énervant, mais qui dit quand même vraiment tout ça, cet amour qu'il a pour sa fille, pour sa femme, et puis quand même avec des engagements aussi. Et je pense notamment aux engagements pour l'Éthiopie. C'était un des premiers chanteurs à s'engager et à écrire cette chanson
en 1985.
Pour mobiliser, ouais, c'est ça, pour mobiliser pour l'Éthiopie. Ça, ce sont des années qui m'ont marqué.
Guillemette.
Moi, ce qui m'a fascinée quand j'étais adolescente, c'est alors d'abord ces chansons énervées. Et potentiellement énervante, mais pas pour moi. Moi, je buvais chacune de ses paroles, disons, un peu comme ça, révolutionnaire. Et il y avait quelque chose, on avait l'impression, quand nous, on n'osait pas, on avait 18 ans, on n'osait pas se rebeller, et il se rebellait à notre place, et on pouvait ululer toutes ces rébellions dans la salle de bain, et il y avait vraiment quelque chose de... Mais ça ouvrait espèce de paysage politique. Moi, il m'a ouvert à certaines thématiques politiques que j'ignorais à l'époque. Ça m'a fait me renseigner sur la position politique de la France, sur plein de choses. Et le côté des chansons émouvantes, ce qui est fascinant, c'est que quand on écoute ces paroles, elles sont d'une simplicité, mais j'allais dire enfantine. C'est comme s'il réinventait l'émotion. D'autres chanteurs chanteraient la même chose ou quasiment les mêmes thèmes, ce serait cucu. Avec Renaud, c'est précis, c'est abrupt, c'est complètement vrai. C'est ça qui est dingue.
Et c'est vrai, Didier Varro, Erwan Lewet, que Renaud, c'est un formidable raconteur d'histoire. Quel sens de la narration ! On est immergé dans des sortes de petites nouvelles, Erwan Lewet.
Ouais, c'est comme des petits scénarios de cinéma, en fait. À chaque fois, on voit les personnages, on voit le décor, on voit comment ils évoluent dans ce décor, qu'est-ce qu'ils pensent. Et puis, il y a toujours ces pirouettes à la fin, l'humour qui vient... tout bousculé encore. Parfois, il peut avoir des chansons très énervées, très énervantes, parfois, pour certains, très engagées aussi, quand il parle du communisme, des luttes pour protéger les peuples opprimés. Mais à chaque fois, l'humour vient comme ça donner encore un appel d'air et faire qu'on se dit, ben voilà, c'est un vrai poète, quoi. Il apporte cette touche-là encore en plus.
Didier Varro.
Oui, je parlais de Georges Brassens tout à l'heure. Georges Brassens disait, une bonne chanson, c'est d'abord une bonne idée. Et c'est vrai que chez Renaud, il y a toujours une idée, et puis après, il y a une construction. D'ailleurs, Georges Brassens lui avait dit « Tes chansons sont bien construites », ce qui avait été pour Renaud, ça y est, il avait planté son drapeau au sommet de l'Everest.
C'était son prix Nobel.
Ouais, c'était bon, quoi. Ça y est, il pouvait s'arrêter presque. Mais c'est vrai qu'il y a à chaque fois cette idée, cette construction, ce plaisir jubilatoire de la chute. Effectivement, toutes les chansons de Renaud ont une chute. Et encore une fois, il y a évidemment cette langue, qui est une langue qu'il a inventée. Il y a la langue de Renaud, il y a la langue française, il y a la langue académique. Et puis, il y a la langue de Renaud qui est devenue presque une langue académique aujourd'hui. Et ça, c'est quand même fabuleux. Moi, je me souviens, dans les premières années de son itinéraire artistique, on apprenait le Renaud, comme d'autres apprennent le Verlan. Il y avait cette volonté, comme ça, d'être au plus près de cette gouaille, de cette rythmique aussi qu'il a dans les chansons, et cette façon de inventer la langue française.
Thibaut de Saint-Maurice.
Non, mais je voulais faire remarquer exactement ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un chanteur populaire qui joue, qui caricature la langue populaire, ou qui même la reprendrait simplement comme un témoignage, voilà, pour dire c'est comme ça qu'on parle. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rend cette langue, et aussi, il faut dire, portée par une voix et un accent, voilà, il la rend poétique. Ouais. C'est-à-dire que la poésie n'est plus l'apanage d'une langue distinguée, bourgeoise, d'un certain milieu, de classe, etc. La poésie, la mélodie, en fait, sont appartiennent à tout le monde, un bien commun, et permettent de chanter aussi bien la révolte que la tendresse.
Tiens, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus quand on parle des chansons de Renaud ?
Moi, le cliché qui m'agace le plus, c'est de dire que Renaud a mal vieilli. D'abord, je pose la question simple. Est-ce que c'est facile de vieillir, tout bêtement ?
Il a 73 ans aujourd'hui.
Voilà. Donc, effectivement, il a été traversé par des démons qui l'ont détruit, c'est sûr. Mais je trouve que Renaud, même dans ses disques un peu moins aboutis ou dans ses concerts qui ont été plus difficiles à écouter et à déguster, a toujours un moment... Il y a toujours un moment de grâce, quoi. Il y a toujours un moment où, même ces dernières années où c'est très difficile parfois d'avoir vu Renaud presque aphasique avec ses yeux bleu clair d'un ciel qui raconte l'infini, mais en même temps cette détresse, on a envie de le prendre dans nos bras, de le serrer, de lui dire t'inquiète pas, ça va, tu nous as éduqués, moi politiquement il m'a éduqué, mes cours d'instruction civique c'était les chansons de Renaud, c'était mon petit bréviaire politique.
Tiens, un moment de grâce.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes.
Il fait karaoké avec Thibaut et
Guillaume.
Oui, les paroles que vous connaissiez par cœur. Mistral gagnant sorti en 1985. Alors pendant longtemps, selon divers classements, la chanson préférée des Français. Eh bien, c'était Mistral gagnant, ça l'est encore, hein, si je me réfère à un sondage BVA Doméo Presse Régionale établi à partir de 30 chansons et publié en 2023. Pourquoi est-ce que Mistral gagnant touche à ce point les Français? Cette chanson qui raconte le lien fusionnel entre un père et une fille qui se regardent grandir en miroir. Erwan Lelewette.
Il faut raconter un peu l'histoire de cette chanson. Elle a failli ne pas voir le jour, en fait. Il est à Los Angeles. Dominique et Lolita sont restés à Paris. Et il écrit cette chanson. Il trouve presque trop impudique, en fait, parce qu'elle le raconte aussi. Elle raconte ses souvenirs d'enfance, ses bons becs fabuleux. Et en fait, il va prendre le téléphone, il va appeler Dominique. Et il va lui jouer à la guitare cette chanson. Et elle lui dit à l'époque, si tu ne mets pas cette chanson sur l'album, je te quitte. C'était une manière sans doute un peu radicale, mais elle l'aurait sans doute pas fait. Mais en tout cas, cette chanson existait grâce à elle.
Didier Varro.
C'est une chanson qui parle de son vécu et qui touche à l'universel. Voilà, donc c'est la chanson du paradis perdu. C'est la chanson sur l'enfance. Et l'enfance, pour beaucoup, c'est le paradis perdu. Malgré tout, je parlais tout à l'heure de la difficulté de vieillir. Mais c'est vrai qu'il y a ça dans cette chanson. Il y a des images très fortes, et à l'époque, en 85, Ali, beaucoup de gens ne savaient plus ce qu'étaient les Mistral gagnants. Ouais. Moi-même, j'avais une vague idée, mais il a fallu quand même que Renaud me l'explique. Je dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas eu ça, ces bons becs fabuleux. Ouais. Et en fait, c'est devenu comme ça, que le Mistral gagnant que personne finalement connaît aujourd'hui est devenu un objet fantasmatique comme ça, qui est relié à l'enfance, à la mélancolie et à la nostalgie.
Vous parlez d'enfance, mais pourquoi dit-on souvent que Renaud n'a jamais guéri de son enfance, nostalgie d'une enfance heureuse, même si le cocon familial, comme vous l'écrivez, Erwan Lelouette, c'était une innocence utopique, pourtant teintée de secrets et de tabous.
Oui, alors, il décrit son enfance, il dit qu'elle est douce comme le miel, parce qu'en fait, c'est un appartement de l'avenue Paul Appel, dans le 14e arrondissement de Paris, à la Porte d'Orléans. Ils sont 6 enfants. Les parents sont d'univers différents. Solange est plutôt prolétaire, milieu ouvrier. Le père est un protestant, milieu intellectuel, qui a été professeur aussi traducteur.
Il a écrit aussi des livres pour enfants. Moi, je disais Les Six Compagnons, écrits par Olivier Séchant, dans les dernières années des Six Compagnons, dans la Bibliothèque Verte.
Exactement. Et ce couple s'est rencontré à Radio Paris, qui était la radio dont on dit qu'elle a collaboré, en fait, qui était l'organe de l'ennemi. Donc, cette histoire est teintée de secrets de famille aussi, parce que...
Il y a le grand-père.
Il y a le grand-père, Oscar Mériot, qui a été doriotiste.
Doriotti, c'est-à-dire, il a appartenu au parti d'inspiration fasciste créé en 1936 par Jacques Doriot. C'était l'un des deux principaux partis collaborationnistes.
Oui, qu'il avait rencontré au Parti communiste. C'est un ancien communiste, sans doute aussi déçu par un voyage à Moscou. C'est vrai que Renaud, on dit que peut-être ce mal-être a pu venir de cette enfance, enfin de ces secrets de famille, en fait. Mais il n'a cessé d'expurger ce passé qui a pu lui faire mal, c'est vrai. Avec une communication compliquée parfois entre le père et le fils, c'est une histoire familiale finalement plus compliquée qu'on ne l'imagine.
Didier Varro, on ne comprend pas, si on ne comprend pas l'enfance de Renaud, on passe à côté de son œuvre.
Mais évidemment, c'est vrai qu'il y a eu ces secrets de famille, ces tabous. Il a peut-être fantasmé son enfance de manière irrationnelle, puisque, on le sait, il a un frère jumeau, et il raconte son enfance déjà douce comme le miel, en fantasmant finalement sa vie intra-utérine comme la meilleure vie du monde, puisqu'il dit, voilà, je suis né avec mon frère David, et mon frère David est sorti le premier, parce que moi, je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas voir la lumière du jour, je ne voulais pas voir ce monde. C'est-à-dire que même dans son esprit d'enfant, d'écolier, il était déjà dans cette fantasmatique que l'enfance, c'était le territoire de tous les possibles, et où le monde n'est pas encore sali.
Allez, dans un instant, continue à évoquer le plaisir d'écouter Renaud, mais il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie du docteur Guimet Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, cher Ali, évidemment, dans cette chronique, j'aurais voulu sortir mon dictionnaire de rimes. Mais moi, quand j'ai la vie autour qui me pique les yeux, que j'ai mon petit cœur tout bleu, je n'ai pas le talent de Séchant pour sécher tout le chagrin de la môme du 8e le soir dans son lit. Quand je pense à Renaud, il y a des copains qui reviennent. Des mecs de cinéma, épais comme des sandwichs SNCF, qui titubent à l'ombre et qui, même s'ils trouvent un peu galère d'aller chaque jour au chagrin, ont la tendresse de dire « t'en fais pas, c'est pas la fin du monde ». Je pense à Michel Blanc. Et comme j'ai déjà souvent parlé de son entorse qui s'infecte et ses comprimés contre les renards, je ne vais pas vous conseiller son Marche à l'ombre à lui, mais un autre film dont le titre vient du chanteur énervant, qui au passage était sacrément bon en titre. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Alors on écoute d'abord un bout du machin pour se mettre bien dans l'ambiance de cette comédie de 1981 sur les emmerdes de logis.
Viens chez moi, j'habite chez une copine.
Oh non, merde, mon matelas!
Bon, je suis viré si je comprends bien.
Et tu viens plus me faire chier.
Écoute, Cathy.
Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups.
Problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là.
Bah, tu veux dormir ici?
Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. J'essaierai d'être le plus discret possible.
J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement, parce que...
Alors bon, vous avez cru comprendre. Alors Guy est chômeur, glandeur, dragueur. Et comme il s'est fait virer de son appart, il se fait héberger par son pote Daniel, et surtout en fait sa femme, en précisant bien sûr que c'est pour un jour ou deux. Alors, résultat, l'incruste totale.
Et il ne reste pas discrètement dans son coin le copain Guy. Hein.
Ah non, alors il s'étale en mettant un bordel noir, en râlant parce que, oh, il n'y a pas la télé, en géniant et en invitant ses conquêtes, dont Anémone, adepte des plans à quatre et qui tient absolument à se déshabiller en jouant au Scrabble.
C'est vrai.
Michel Blanc est évidemment exceptionnel en Parasite 5 étoiles, qui aussi finit par redonner une jolie immaturité à son poteau Daniel, le tendre et agacé Bernard Giraudeau. Alors dans cette comédie qui ne vieillit pas, Blanc porte un bleu, cette veste d'ouvrier. On pense à la chanson de Renaud, si belle, en sachant qu'aujourd'hui tout de même cette veste est devenue une pièce chic des vestiaires. Pas de commentaire. Dans le film, Michel Blanc, à la rue, se trimballe aussi façon tortue avec son matelas sur le dos. Et hop, transition, avec Gérard Jugnot, alias Michel Berthier, qui, dans une époque formidable, se fait licencier après avoir travaillé 10 ans dans le matelas. Au début, ce cadre sup n'ose pas l'avouer à sa compagne. Il donne le change. Et puis, trop honteux, il part. Dort sur un banc. Début de la dégringolade sociale. Mais quand on est au bout du roule, on peut trouver des potes d'infortune. Trois clochards, Crayon, Mimosa et le Toubib, lui tendent la main et une bouteille de vinasse en plastique. Allez Berthier, va pas te tailler les veines, un job de perdu, c'est trois clodos qui te tiennent.
Un petit coup de blues là.
C'est pas le moment de se laisser aller.
Tu sais de quoi j'ai envie ? Un lit. Un petit lit bien chaud, dans une petite chambre propre.
Alors ce film, c'est une chanson de Renaud à sa manière, qui dénonce la violence sociale, la fragilité de la réussite et qui célèbre avec un humour noir magnifique la beauté solidaire des plus démunis. Un film qui reste tellement d'actualité dans ce monde sans espoir fixe où Jugnot prouve que même si tu te retrouves à poil sans tes bottes et qu'il faut avoir de l'imagination pour trouver la chute rigolote, cette chute peut vous mettre aussi dans de nouveaux draps d'humanité.
Didier Varro.
Film majeur. C'est un film doudou qu'on revoit avec plaisir, qui est un film d'époque, mais qui a là encore traversé les époques, parce que ce qui est intéressant, c'est la situation des personnages. Et c'est vrai que c'est une chanson de Renaud. D'ailleurs, souvent, on imagine que Renaud a joué dans ce film. Oui. Renaud qui voulait être comédien, qui d'ailleurs a démarré sa carrière artistique.
Mais qui était très bien dans Germinal de Claude Berry, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Rappelez votre ordonnance.
Mais ce qui est fou, c'est qu'une époque formidable, moi je trouve qu'on dirait une chanson de Renaud, mais la chanson a été composée par Francis Cabrel. Ouais. Hein, bon. Donc, oui. Alors, une époque formidable et viens chez moi, j'habite chez une copine.
La cinéthérapie de Guy Métodicino a podcasté sur l'appli Radio France. Dans quelques instants, on évoque quelques thèmes majeurs de l'œuvre de Renaud qui a si bien raconté nos vies, comme dans L'Esbéton, une chanson sortie en 1977.
J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis il s'est approché de moi, puis il m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiac, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, il est pas bidon. Moi je me les gèle sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinel et je te chouraverai ton blouson. Moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. Le type a surgi sur le boulevard, sur sa grosse moto super chouette. S'est arrêté le long du trottoir et m'a regardé d'un air bête. Tu as le même blue jean que James Dean, tu arrêtes ta frime. Je parie que c'est un vrai Lévi-Strauss, il est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire que je te dévalise. À grands coups de ceinturon, moi j'y ai dit, laisse béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en gros star. Quand à la fin d'une chanson, tu te retrouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote.
Renaud interprété Les Béton. Thibaut de Saint-Maurice, vous connaissez les paroles par cœur, vous êtes un vrai fan en fait.
Et je suis un gros fan, je disais, je pense que c'est le chanteur que j'ai le plus écouté dans mon enfance, dans mon adolescence. Et
dans
effectivement,
un milieu...
ça sera pas un scoop, je n'ai pas grandi dans une famille... J'ai plutôt grandi dans une famille bourgeoise, voilà. Mais, et en fait, c'est ça qui est aussi qui est fascinant, c'est-à-dire que... évidemment, et j'étais pas le seul à l'écouter, mes frères et sœurs, mes parents l'écoutaient, etc. C'était joyeux, en fait. Il y avait quelque chose de très joyeux, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la révolte et la tendresse en même temps. Et en fait, ça qui permet de parler à tout le monde.
France Inter.
Ah, je savais pas, c'est l'anniversaire de Renaud aujourd'hui.
Oh, j'adore.
Oh, qu'est-ce que j'aime ce chanson. Qu'est-ce qu'on s'est révolté sur ces chansons. Ah, ouais. C'est le dernier. Il y en a plus.
Grand bien vous fasse, Ali Rébé.
Et vous avez bien sûr reconnu Catherine et Liliane. Et ce matin, nous célébrons le plaisir d'écouter Renaud en compagnie du journaliste Erwan Lelewet, qui publie un magnifique livre, Renaud, le livre richement illustré, en compagnie de sa fille,
Lolita Séchon. Lolita Séchon, oui.
Et avec également l'indispensable Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, qui publie, il est lourd ce livre, française, ouais. Un peu beaucoup, passionnément, 60 ans d'émotion avec les plus grands artistes. C'est publié au Robert et... L'Hyper Week-end Festival.
C'est dans 8 jours.
C'est dans 8 jours.
Ça y est.
Vous êtes prêts ou pas ?
Comment vous dire ?
C'est le week-end prochain.
C'est le week-end prochain. Voilà. Ça commence vendredi.
Voilà. Ouais. Bon, on vient d'écouter Les Béton. Pourquoi Les Béton a autant marqué à sa sortie en 1977, Erwan Lelewet ?
Parce que peut-être il raconte déjà aussi une France un peu périphérique. Et puis déjà... ces histoires de bandes, de blousons, de cuir, de Santiago. C'était un des chanteurs qui s'intéressait à cette France qu'on n'entendait pas, qu'on ne voyait pas, qu'on ne regardait pas, en fait. Il y a, comme ça, chez lui, des jalons, des chansons qui sont des chansons totem. Moi, je pense à Dans mon HLM aussi.
Ah bah oui.
Parce que Dans mon HLM, finalement, c'est mieux qu'un rapport de sociologie. Vous avez tout. Vous avez le légionnaire, vous avez la petite pépette, vous avez l'espèce de connasse.
Tenez, on va écouter un extrait.
Ah oui.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent le pinard au bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la monte du 8ème. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a jeune cadre dynamique, costard en alpaga,
qui a payé 20 000. Pourquoi c'est l'une de vos chansons préférées?
Parce que justement, elle est politique et en même temps, elle est drôle. C'est-à-dire qu'on voit les personnages. On voit le légionnaire qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Bah, ça dit quand même quelque chose. Hein,
encore aujourd'hui.
Cette France, ouais, bien sûr. Cette France aussi rance, raciste, ça dit ça. Ça dit aussi l'engagement, finalement. Il parle des anciens 68ards. Il s'inclut dans cette bande d'allumés, en fait. Lui, il était un allumé en 68 parce qu'il a fêté ses 16 ans sur les barricades. Il était au comité Gavroche, chargé d'animer.
Révolutionnaire.
Révolutionnaire, c'est vrai, il faut le dire. Et il a été filmé d'ailleurs à l'époque, c'est assez incroyable. Il reprend un sketch de Guy Bedos. Il a cette gouaille, ses cheveux fins. C'est un môme, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qu'un môme fou dans cette fac? Ses parents étaient morts d'inquiétude parce que toute la famille, tous les frères et sœurs étaient sur les barricades. Et il a même fait un manuel pour. Apprendre à faire des cocktails Molotov. Il était vraiment revendicatif.
Il dit même qu'il est né le 11 mai 1968. Il est né le 11 mai 1952. Mais il dit qu'il est né ce jour-là.
Oui, c'est une forme de renaissance pour lui, en fait.
À 16 ans.
Mais oui, à 16 ans, mais déjà à 15 ans, il milite au Parti communiste marxiste-léniniste de France. Il adhère aux amitiés franco-chinoises. Il proteste contre l'intervention au Vietnam. Il manifeste contre l'arme atomique. On se dit, mais c'est une boule de colère, d'énergie. C'est un môme déjà très révolté, très agacé. Et ça, tout Renaud est là, finalement, dès le début, en fait.
Didier Varro.
Oui, et puis c'est un Renaud qui aime la lumière et qui aime être une force motrice. Vous parliez effectivement ces images hallucinantes de Renaud dans la Sorbonne occupée en train d'improviser sur un sketch de Guy Bedos. tout le monde le regarde fasciné, c'est lui qui prend la lumière. Et franchement, à chaque fois qu'il a porté ses combats, ses obsessions aussi, parce qu'il avait des obsessions, il était quand même dans la lumière. C'est un petit gars qui voulait réussir. Hein.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, sur cette chanson qu'on a encore, la HLM, à la fois c'est un rapport de sociologie, en même temps c'est une utopie. Parce que dans cette HLM, il y a en fait tout le monde, il y a toute la France, il y a les contradictions. Il y a cette France aujourd'hui dont on dit qu'elle est fracturée, opposée, ghettoisée, etc. Et donc c'est ça aussi qui est merveilleux, c'est-à-dire que dans son HLM, il y a cette France qui est pas, tout le monde n'est pas pareil, mais tout le monde vit ensemble. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui touche et ce qui marque, c'est que, on peut ne pas être d'accord, mais pourtant, on est là, on est ensemble.
Qu'il y a l'humour.
Bien sûr.
Il y a l'humour, que ce soit dans Lesbéton, où il croque ce petit personnage avec cette chute, hein, qui est importante, encore une fois la chute, ou dans ce traité de sociologie qui est dans mon HLM, il y a à la fois le réalisme, et il y a l'humour, et il y a cette forme de distance qui fait qu'effectivement, bon, c'est un peu tarte à la crème de dire ce vivre ensemble vers lequel on voudrait tous tendre aujourd'hui dans une société qui est complètement archipélisée. Mais lui, il fait vivre tout le monde ensemble, hein, et avec une bienveillance et une tendresse dans la mère Atiti aussi. Oui. Bon, on voit bien qu'on n'a pas du tout envie d'aller vivre chez la mère Atiti. Et en même temps, on a envie d'y aller parce qu'on a tous connu une mère Atiti.
On a envie de l'aimer, cette femme, en fait. Ouais.
Puis c'est un peu l'Italie, quoi.
Guimetto di Sino.
Oui, alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour ce HLM qui est un microcosme un peu comme ça, de précipité de la France. Après, il y a le versant encore plus énervé qui s'appelle Hexagone, où, excusez-moi, la France en prend quand même bien pour son grade. Ça fait mal quand même. Hein, ça fait mal
il
derrière
en a eu quelques-unes chansons comme ça, qui sont des brûlots.
Ah oui, ça c'est vraiment un brûlot. Ça.
Où là, c'est pas effectivement la France qui essaye de cohabiter dans le vivre ensemble. Ouais,
le roi des cons sur son trône.
Il s'embrasse au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux-culs. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne.
C'est l'une de vos chansons préférées, qui finit en l'air, leur besogne.
C'est une de mes chansons préférées, mais...
Oui, moi, c'est une de mes préférées. C'est la seule où j'ai fait mon intéressant au lycée. Je me prenais pour Renaud et j'essayais de l'imiter même. Et c'est la chanson de contestation. Avec toute la mauvaise foi qu'il peut y avoir dans les chansons de contestation, il en aura d'autres comme ça, mais qui sont importantes aussi, qui structurent un engagement.
C'est quand même une chanson. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà mis dans une chanson populaire Sharon. Cette chose, là, quand on parlait d'éducation politique quand on est jeune, moi, c'est cette
Sharon,
phrase.
Sharon 1961.
On a été voir ce que
on
c'était.
On a été voir ce que c'était Sharon. Ouais. On a bien compris. 62, et qu'on a bien, on lui a bien, comment dire, on l'a remercié d'avoir mis ça dans une chanson.
Sharon 1962, pardon.
Oui, parce que ses parents participent à cette manifestation pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, une manifestation pacifiste qui va être réprimée par la police, ce sinistre préfet Papon. Et c'est vrai qu'il voit ses parents rentrer de la manifestation. Il voit ses parents rentrer de la manifestation en pleurs. Et pratiquement la conscience politique va peut-être naître ce jour-là, en fait, ce jour de février 1962.
Didier Varro, vous portiez le blouson noir à l'époque ?
Oui.
Parce que Renaud raconte qu'avec le blouson noir, il se sentait fort. Et je le cite, « Je ne suis pas fort, je suis faible, je suis maigre, j'ai les jambes arquées, mais avec le blouson noir, j'ai l'impression d'appartenir à un monde. »
Oui, et puis ça allait même plus loin. Il disait « Un blouson noir, c'est beau, ça brille, il y a comme ça toute la mythologie. Peut-être à la fois des sans-voix de ces populations périphériques dont on ne parlait pas beaucoup, qui, comme le disait Erwan, qui n'était pas très présente dans les médias. Et en même temps, ça structure toute cette mythologie de l'errance, du voyage, de la terre promise et d'un comportement un peu libertaire aussi. Hein. Plus que anarchiste, c'est un mode de vie libertaire, hein, le mode de cuir, le blouson de cuir. Pardon.
Oui, et puis on entend Hexagone, c'est vrai que on se dit que finalement, on peut encore l'entendre aujourd'hui, elle dit encore quelque chose. Et d'ailleurs, la preuve vivante, c'est que des rappeurs se sont emparés de cette chanson parce qu'ils trouvent dans cette chanson, finalement, ce qu'ils revendiquent encore aujourd'hui. Ça, c'est incroyable que 50 ans après, une chanson, elle dit encore quelque chose à une nouvelle génération.
Moi, j'ai l'impression que le blouson noir, en fait, c'était son nouveau bleu. Oui, qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose dans le cuir noir qui reprenait une imagerie, enfin ouvrière, oui, ou en tout cas une imagerie révolutionnaire.
Qui n'était pas celle de son éducation.
Qui n'était pas celle de son éducation.
Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'huma sur le canapé près du chat. S'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette.
Alors, Son Bleu, sorti en 1994, c'est votre choix commun, Erwan Lillywhett, Didier Varro?
Oui, parce que pour ce livre, en fait, Dominique m'a raconté que...
Sa femme,
qui a été sa muse aussi, la maman de Lolita, que ce bleu, Son Bleu, s'était inspiré par Jean, qui était son beau-père, le deuxième mari de sa maman, et qu'il avait travaillé, il avait été ouvrier, ensuite avait travaillé chez IBM... Et il avait quitté Son Bleu pour enfiler un costume, en fait. Et Renaud aimait ça. C'est une chanson sur le milieu ouvrier, évidemment, sur les espoirs déçus, et puis sur le lien entre un père et son fils qui n'arrivent pas à se comprendre. Et ça, c'est fort d'arriver aussi à créer de l'émotion. J'en ai aussi en vous parlant. C'est incroyable de raconter le monde ouvrier et puis aussi la violence de ce monde du travail, du licenciement de cet homme qui se retrouve sans son bleu qui était sa fierté, sans son bleu qui était son appartenance à un monde qu'il aimait. Et voilà.
Je l'ai senti très ému également, Didier Varro.
Ah, moi, c'est une chanson que j'ai du mal à écouter sans avoir les larmes aux yeux.
D'ailleurs, vous avez reculé votre siège.
C'est une chanson qui n'a pas réellement marché. Je crois qu'elle n'est même pas sortie en single.
Je vais vous faire un aveu, je ne la connaissais pas.
Ouais, c'est vrai. Et pour moi, elle décrit tellement bien. C'est pour moi la plus grande chanson engagée. Alors, parce que quand on dit Renaud, on dit où est-ce que j'ai mis mon flingue, qui est une chanson. Alors, Hexagone à côté, c'est presque du lait.
Hein, ah oui,
où est-ce que j'ai mis mon flingue, Hexagone, Miss Maggie, toutes ces chansons très engagées. Mais ça, c'est ça le réel engagement. C'est quand tout d'un coup, on a un regard émotionnel sur une situation, et cette situation résumée, symbolisée par un costume de travail. C'est comme les mains d'or de Lavilliers. Voilà, c'est deux chansons qui, moi, me bousculent et qu'on peut écouter de façon indéfinie et qui parlent avec bonheur et bienveillance de ce monde ouvrier dont il ne faisait pas partie aussi, il faut quand même le rappeler, s'il avait des racines ouvrières dans sa famille, comme l'a rappelé Erwan. Et ça bouscule, quoi.
Guillemette.
Oui, je suis d'accord. J'allais parler des mains d'or de Lavilliers. Je trouve que ce sont les deux plus grandes chansons politiques, sans être dans une douceur extrême. Ça vous serre le cœur, ça fait mieux comprendre que beaucoup de traités de sociologie. Hein,
exactement.
Une fois de plus.
Thibault.
Et c'est 1994, quand même une grande décennie de désindustrialisation en France, avec chaque semaine des plans sociaux, des usines qui ferment. Je crois qu'on n'est pas très loin du Lionel Jospin, Premier ministre, qui dit on ne peut pas tout à propos, justement, le politique ne peut pas tout à propos.
C'est en 97.
Voilà, bon, un peu plus tard, voilà, mais on est dans cette ambiance-là, à propos de ces fermetures. Ce qui montre aussi que Renaud, il n'est pas resté bloqué aux années 60-70, au combat comme ça, des années 60. Et à cet affrontement idéologique entre prolétaires et bourgeois, etc. Il a aussi, avec le temps, accompagné, en fait, la réalité de ce que la France vivait socialement.
Et pour moi, elle symbolise aussi tout ce qui fait mal à Renaud, dans son petit cœur, dans son intimité. Il y a eu Fatigué, évidemment, mais toutes ces chansons qui, d'un coup, le traversent et ne lui font plus comprendre ce monde et font qu'il est... Il est malhabile vis-à-vis du monde d'aujourd'hui. Ça, c'est très bouleversant aussi d'avouer à travers ses portraits et ses chansons qu'on comprend plus le monde et qu'on n'a plus envie d'être en empathie avec ce monde-là.
Mais c'est vrai que sa chute va aussi avec la chute de ses désillusions politiques, de ses espoirs déçus, de cette gauche en laquelle il avait placé tant d'espoir et qui a échoué. Il y a une chanson qui s'appelle Socialiste et qui dit bien ça aussi, à la fois la tendresse et en même temps une colère vis-à-vis de cette gauche qui n'a pas réussi.
Et voici la chanson préférée de notre chargée de programme, Nathalie Romero, qui part à la retraite la semaine prochaine.
Je suis curieux de savoir.
C'est son chanteur préféré et sa chanson préférée.
Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Et les arbres ont le cœur infiniment plus tendre que celui des hommes qui les ont plantés. Pour toucher la sagesse qui ne viendra jamais, je changerai la sève du premier olivier contre mon sang impur d'être civilisé. Responsable anonyme de tout le sang versé, fatigué.
C'est marrant, je parlais de fatigué.
Didier Varro,
oui, bah, chanson absolument géniale, avec en plus l'énergie de la musique. Là, pour le coup, on est dans un Renault un peu plus rock'n'roll, avec le cambouis sur le blouson de cuir. Mais c'est déjà, ouais, c'est, cette chanson extrême, c'est un moment de bascule hein, dans la vie de Renault.
1985.
Ouais.
Oui, c'est vrai qu'il a eu des moments où il était fatigué, même où il a baissé les bras en fait. On l'a perdu parfois Renault, on l'a perdu de longues années en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs retours, des retours successifs. Et parce qu'on attendait sa voix aussi, on s'est tellement habitué à l'entendre dire des choses, à raconter notre société, à raconter nos époques, à porter des engagements, que quand il nous dit lui-même qu'il est fatigué, ben on a toutes les raisons de le croire et puis d'être un peu désespéré aussi, comme lui finalement.
L'homme qui n'aime plus les hommes mais qui préfère les arbres. Ouais. Bon, alors évidemment, on pense aussi à Mitterrand. Je ne sais pas si on va parler de Mitterrand et de sa relation très complexe et très,
ce sera
très forte avec Mitterrand.
Ce sera l'objet
de notre émission.
Ce sera l'objet de notre émission. Moi, j'aime beaucoup la mère à Titi. Souvenir d'ado quand je vivais dans un HLM.
C'est tout petit chez la mère à Titi. C'est un peu l'Italie. C'est le bonheur, la misère et l'ennui. C'est la mort, c'est la vie. Il y a une belle corrida sur un...
Vous parliez tout à l'heure, Erwan Lelewet, de scénario. Moi, quand j'écoute cette chanson, quand j'ai 15 ans, en 88, voilà, c'est très cinématographique, c'est une petite nouvelle. La mère à Titi, bah oui, c'est un peu le milieu dans lequel j'ai évolué. Bah voilà, c'est...
C'est vrai.
C'était votre frérot à ce moment-là.
Ouais, non, parce qu'il aurait pu être mon père. Il est né la même année que ma mère. Donc, mon père, alors.
Non, mais vous les voyez, les feux en plastique, vous voyez tous ces objets, on les voit, cet inventaire à la Prévert. Et la mère à Titi, elle existait, hein. C'est pas une invention. La mère à Titi, c'est la mère de Jean-Pierre Bucolo, qui était un de ses guitaristes, qui a beaucoup composé pour lui. On lui doit de grandes mélodies, notamment Manhattan Kaboul. Et donc, elle a existé. Et quand il a vu cet appartement, c'est un inventaire à la Prévert, raconte bien. Oui, ce milieu populaire, ce milieu simple et cette femme qui se plaît dans ce cocon qu'elle a créé.
Allez, un mot en guise de synthèse sur ce plaisir d'écouter Renaud Didier Varro.
Je sais pas tellement, on est heureux d'en parler tous autour de la table, on a les yeux qui brillent, on a envie de pleurer, on a envie de sourire.
Rire aussi.
Ouais. Et c'est ça, voilà, ça nous renvoie à notre propre enfance. Ce qui est génial, parce que Erwan dit, la mère à Titi, elle a vraiment existé, et elle a existé chez vous.
Oui, exactement.
Et donc c'est ça aussi qui est assez miraculeux dans la chanson, et c'est pour ça que j'aime la chanson plus que tout, c'est que, voilà, elles sont souvent écrites, et elles partent souvent de l'intime, elles sont souvent personnelles, et en même temps, elles nous touchent et on se les réapproprie. C'est comme si nous, on avait réussi à les écrire et à les incarner.
Guillemette.
Il a composé certaines des chansons les plus émouvantes du répertoire français. Et pour ma part, je trouve qu'il a composé la chanson la plus drôle du répertoire français. C'est ma chanson « Le rap a plu ».
Ah oui.
C'est tellement drôle. Il fait une satire d'autres chanteurs. De ses collègues chanteurs comme Capdevielle, Lavilliers justement.
Cabrel, je crois.
Et Cabrel, où il y a quand même ce truc. C'est l'histoire d'une nonne amoureuse d'un caillou. Dans sa vie, il n'y a plus personne que des marchands et des fous. Moi, ça, pardon, hein, mais je pense que même Francis Cabrel a dû s'étrangler
et
de rire.
Si elle ne te plaise pas, il la remet
dans
sa culotte.
Et à la fin, sa culotte est un vrai jukebox, très cher.
Erwan Lelewet.
Bah, c'est ça, c'est rire, pleurer, s'émouvoir, aimer, chanter. célébrer ça, c'est ça qu'on aime chez Renaud.
Thibaut. Et il y a une question quand même qui est comment on va transmettre toutes ces chansons de Renaud. Il est encore parmi nous, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de générationnel, on l'a dit, en gros, les années 70 jusqu'à... Voilà. Et donc, comment ça va se transmettre, Renaud? Et ça, moi, je suis assez curieux de voir, bien sûr, c'est notre responsabilité, mais je suis assez curieux de voir aussi comment des jeunes chanteurs, aujourd'hui, vont, ou pas, enfin, j'espère qu'ils vont y aller, reprendre Renaud et le transmettre.
Il y a les jeunes chanteurs, mais il y a les familles. Quand dans mon documentaire que vous avez cité tout à l'heure, tous les intervenants disent, mais Renaud, ça se passe dans le biberon, en fait, et ça se chante dans la voiture en collectif. C'est un des rares artistes générationnels qui réunit les parents et les enfants.
Dans un instant, c'est la punchline philo, l'une des plus célèbres phrases de l'histoire de la pensée avec Thibaut de Saint-Maurice. En attendant, on écoute Arlo Parks, le tout nouveau titre en exclusivité, Two Sided.
There's a butterfly effect, 'cause I feel my heartbeat climb. The moonlight cuts through why our friends are all inside. The heat and the dark, my head is so cloudy.
Arlo Parks interprétait Two Sided.
Tu l'as surfé.
France Inter.
Comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute. Et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Ce matin, Thibaut, vous vous intéressez à l'une des citations les plus célèbres d'Albert Camus, « Je me révolte, donc nous sommes ».
Ben oui, Ali, parce que je me disais que pour conclure une émission sur le plaisir d'écouter Renaud parler de révolte, eh bien ça nous permettrait de conclure aussi un peu en beauté. Comme on l'a dit, le fil de la révolte, c'est sans doute donc un des fils les plus continus entre toutes ses chansons et toutes les facettes de sa carrière. Et cette formule de Camus, « Je me révolte, donc nous sommes », aurait presque pu devenir un titre de chanson ou d'album chez Renaud. Alors Camus écrit cette phrase en 1951 dans son livre intitulé « L'homme révolté » et il s'amuse à reprendre évidemment la citation la plus célèbre de la philosophie française, le fameux « Je pense, donc je suis » que l'on doit à Descartes. Mais là où Descartes exprimait la certitude d'exister à partir du simple fait de penser, Camus transpose l'argument sur le plan politique en exprimant la puissance de la mobilisation collective à partir de l'indignation individuelle. On passe donc de la solitude de la pensée cartésienne à la solidarité de l'action chez Camus. Mais reste à comprendre la possibilité de ce passage, parce que très franchement, On se sent parfois bien seul dans sa révolte. Hein. Il ne suffit pas de s'indigner personnellement pour la plus juste des causes, pour que ça réveille immédiatement une mobilisation collective. Et c'est même parfois tout le tragique hein, de l'engagement politique, militant, caritatif. Il est d'abord personnel parce qu'il naît d'un défaut du collectif. Si nous étions vraiment tous mobilisés pour lutter contre la pauvreté, par exemple, si c'était vraiment une volonté collective traduite dans des politiques publiques, alors il n'y aurait pas autant besoin d'engagement personnel.
Comment donc, Thibault, ma révolte personnelle peut-elle faire exister un collectif ?
Ben oui, c'est la promesse et en même temps tout le problème de cette affirmation puissante de Camus, je me révolte donc nous sommes. Et pour le comprendre, il faut remonter d'un cran au bouquin précédent de Camus intitulé Le mythe de Sisyphe dans lequel Camus pensait l'absurdité de l'existence humaine. Alors absurdité, ça veut dire qui n'a pas de sens, pas de sens a priori, pas de sens donné. Or, dans cette perspective-là, la révolte est un signal, un réveil qui nous arrache justement au néant de l'absence de sens. Si la pauvreté m'est insupportable et qu'elle me révolte, c'est que je m'y oppose et qu'en même temps j'affirme qu'elle contredit quelque chose comme la dignité humaine. Ma révolte est un non, mais qui pose en même temps un oui. Si la violence me révolte, c'est que dans le même temps j'exprime un désir de justice et de paix. Nos révoltes, même si elles sont souvent vécues donc individuellement au départ, révèlent en fait des valeurs. Et ces valeurs, elles ne valent pas que pour moi. Même si je me révolte contre une injustice qui m'est faite, la justice que je réclame devient une justice pour tout homme, sans quoi elle n'est pas justice mais défense de mon propre intérêt. Voilà donc toute la sagesse de Camus, hein. Il trouve en chacun et en chacune d'entre nous ce qui nous rattache à l'humanité tout entière. Quand je me bats contre ce qui me révolte, je me bats aussi, donc, bien, je me bats pour moi, mais pour l'humanité qu'il y a en moi, et aussi donc pour cette humanité partagée par les autres, pour donc toute cette humanité que nous vivons ensemble. Alors même si toutes les révoltes n'aboutissent pas toujours à des mobilisations collectives victorieuses, toutes les révoltes affirment bien cette valeur hein, de notre humanité partagée. Je ne suis pas agriculteur, mais leur révolte de ces derniers jours convoque aussi mon humanité. On le ressent encore mieux quand la révolte se décline en chansons. Hein. Renaud n'était qu'un chanteur, pourrait-on dire, qu'une voix parmi d'autres. Et pourtant, chacune de ces révoltes est une mélodie et un texte hein, que l'on peut chantonner et reprendre à son tour. Et l'on comprend alors que ce qui nous lie les uns les autres, ce n'est pas un état de fait, mais un état de rêve. Non pas le monde comme il est, mais le monde comme il devrait être, société, tu m'auras pas.
Les punchlines, la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec notre camarade Patricia Martin. Patricia Martin qui a longtemps travaillé avec notre chargée de programme Nathalie Romero. Et Nathalie Romero qui m'a écrit un mot à propos de Renaud. Je vous le lis, je devais avoir 13 ans quand mon grand-père m'a dit « Ma petite fille, j'ai entendu un chanteur qui va te plaire. J'ai trouvé un pote, un grand frère, qui savait mettre en mots mes colères, mes révoltes, les combats que j'avais envie de mener. On chantait ensemble souvent, car c'est aussi ça la magie de Renaud, réunir un grand-père et sa petite fille. On termine sur ces mots. Merci aux amis du vendredi, Thibaut et Guimette. Merci Didier Varro.
Merci à lui. L'Hyper
Weekend Festival se déroule les 23, 24 et 25 janvier à la Maison de la Radio et de la Musique, bien sûr. Ah. Et vous avez écrit un pavé, la chanson française, un peu beaucoup passionnément.
Une somme
aux éditions Le Robert. Une somme également, c'est un beau livre, hein, le livre d'Erwan Lélé.
Ah là là.
Ça s'appelle Renaud le livre, c'est écrit avec Lolita Séchant aux éditions de La Martinière. Merci, merci à Nathalie Romero, à Joseph Ascal et à Anna Massardier pour la programmation avec la collaboration de Noé Brabant. Merci à Claire Destacan la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale, à la technique ce matin Enzo d'Hospital. Demain je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien en compagnie d'Agathe Le Caron et lundi dans Grand Bien vous fasse comment soigner les maladies psychosomatiques. N'hésitez pas vous êtes concerné
oui, 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 oui.
N'hésitez
j'ai
pas.
Un dossier là-dessus.
N'hésitez pas à nous parler de troubles bel et bien réels qui ne sont pas dans votre tête dès lundi à 10h au 01 45 24 7000. Je vous attends, hein, Didier.